Ça, c'est beau. Oui. C'est bon. J'ai pas de retour. Attends, j'ai pas de retour. Voilà le bleu. Attends, ouvre le bleu. Vas-y. Non. Là. Là, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Voilà. Bon, on peut y aller alors. On démarre. Alors, on dit bonjour à toute la population qui attend notre émission, comme toutes les semaines, désormais, de 14h à 15h sur les ondes de Radio Galère, la radio à contre-courant. Je reprends le slogan officiel de la radio, car c'est la vérité. Et je vais commencer par, j'allais dire, c'est pas dans mes habitudes, par me lamenter sur l'état de la France. L'état de la France, l'état surtout de son gouvernement, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête, d'une part, à la suite de l'assassinat, l'égorgement d'un professeur dans un lycée, qui a montré que cette structure, qui est une des structures porteuses d'une république, c'est-à-dire l'acte d'enseigner à la population dans sa totalité tout ce dont elle a besoin pour vivre, cette structure de la République est fragilisée depuis des décennies, mais ça ne fait que s'accentuer, par des pouvoirs qui veulent limiter les budgets, qui payent mal les enseignants, qui les imputent, qui les accusent de tas de mots, etc., qui les mettent dans des situations impossibles, dans des endroits difficiles, avec des effectifs surchargés. Donc on a là une responsabilité politique nationale qui est extrêmement forte. J'insiste pas sur le fait qu'il est connu que les enseignants français sont désormais parmi les moins bien payés à travail égal dans toute l'Union européenne et même au-delà. Voilà le contexte. Et par rapport à ce contexte, qu'est-ce qu'on a en face d'un niveau gouvernemental ? Des ministres, ou un ministre, pour citer le cas du dernier, qui, au lieu de parler de l'éducation, des nécessités de donner sa chance à tout le monde, d'égaliser le niveau de formation de tous les enfants de la République, passe son temps, ou perd son temps, à faire des opérations de type abaya, c'est-à-dire à introduire. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 semaines. Bon, vous introduisez dans la problématique de l'éducation de millions d'enfants cette question d'un vêtement et vous dites que c'est ça le vrai problème de l'école. Vous êtes un criminel en faisant ça. Vous êtes un criminel. Vous mettez dans la tête d'un certain nombre d'enfants le fait que le problème, tous les problèmes de l'école viennent de là. Ils ne sont pas venus de là puisque l'opération Abaya s'est achevée ridiculement. Il y a eu, je crois, 500 personnes qui ont été critiquées pour avoir porté cette tenue, etc., dont on disait qu'elle était religieuse sans aucune preuve, etc. Voilà, on a mis de l'huile sur ce feu-là une fois de plus. Et après, on dit, ah, ben, il y a un déséquilibré qui que... Oui, mais qui a mis de l'huile ? Monsieur Attal n'est pas le déséquilibré en question. Lui, c'est le ministre. Le ministre, il doit avoir des propos mesurés, responsables, et pas faire des campagnes comme ça pour influencer l'opinion et pour gratter des voix qui, autrement, vont aller chez Zemmour. C'est pas le problème de l'éducation nationale. Si les voix vont chez Zemmour, c'est que la politique de l'équipe Borne et Macron est mauvaise. Vous n'avez pas compris, ça ? Hein ? C'est pas autre chose et qu'elle n'est pas sociale. Bon. Et à ce moment-là, les gens verront, la population verra que c'est une équipe sérieuse qui fait son travail avec des difficultés, il peut y en avoir, mais qui ne met pas l'huile sur le feu, qui ne fabrique pas des conflits sociaux, qui ne favorise pas la division. Voilà, exactement. Et la façon de rappeler aussi que c'est ce même gouvernement qui, dans le premier semestre de 2023, s'est assis sur la totalité de la représentation syndicale française, toute confédération confondue, pour dire que de toute façon, il fallait une réforme des retraites et que ce qu'en pensaient les syndicats, ça ne l'intéressait pas. Et donc on a utilisé le 49-3 et tout ça se paye, c'est-à-dire que les institutions de la République étant méprisées, étant ridiculisées par l'État, perdent de la consistance et ne sont plus respectées ou ne peuvent l'être de moins en moins par les citoyens. Ça, c'était un contexte que je voulais souligner parce que d'une certaine façon, je veux dire, c'est un peu grandiloquent, mais quand on est face à une République qui est dans cet état-là, on a mal à sa République. J'ai mal à ma République. Hein ? je le dis, j'ai mal à ma République parce qu'elle peut beaucoup mieux faire à condition de ne pas être dirigée par une équipe de ce gabarit-là, qui est un petit gabarit. Et donc, il y a beaucoup à améliorer, il y a beaucoup à reprendre en main. Je ne pense pas que cette équipe soit capable de le faire, mais il faudra bien un jour que la France se réveille, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'avenir de la totalité de ses enfants dans leur diversité, la totalité de ses entreprises dans leur diversité, pas simplement les grosses, et que surtout elle ait une politique à elle, c'est-à-dire qu'elle ne prenne pas ses ordres quelquefois au souffleur. Vous voyez, le souffleur comme au théâtre, le souffleur il est à Washington et on dit « dites ceci, dites cela », et ça suit. Bon, ça, c'est pas intéressant. Et ça, c'est la République qui s'écroule, hein, qui est dépendante, qui est, elle a été néocoloniale, elle le reste. Tout ça se remet sur la table. Et j'ai participé hier à un rassemblement devant la préfecture pour témoigner de ma douleur devant cet assassinat de ce professeur. Mais en même temps, on n'était pas assez nombreux. Et en fait, c'était trop gentil, à la limite, je ne critique pas les organisateurs, c'était trop gentil parce qu'on ne disait pas, de toute façon, quand le pouvoir traite son peuple comme ça, le peuple souffre, le peuple prend des coups. Alors là, le peuple qui a pris des coups, c'est un professeur, ça pourrait être d'autres gens, mais c'est parce que le pouvoir n'est pas à la hauteur et qu'il ne prend pas ses responsabilités. Alors quand il les prend, et là je change complètement de discours, quand il les prend, c'est dramatique. C'est dramatique, j'en veux pour preuve deux texte que j'ai sous les yeux. L'un, c'est une circulaire du 10 octobre, donc du milieu de la semaine dernière, signée par monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Alors c'est une circulaire, et je vais expliquer quand même brièvement ce que c'est en droit administratif qu'une circulaire. Une circulaire, c'est un texte interprétatif d'un décret ou d'une loi. Donc ça n'a pas un poids très très lourd, ça peut se faire annuler au Conseil d'État devant un tribunal administratif et tout, mais c'est un espèce de geste d'humeur, c'est des consignes au personnel lancées par le ministre. Bon, ceci étant, il faut voir ce qu'il écrit, M. Dupond-Moretti, dans cette circulaire qui s'appelle « Circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ». Alors déjà, le titre dit bien, hein, c'est caractérisé. Il y a eu des attaques terroristes, donc c'est Hamas, et donc il y a un coupable, c'est lui. Hein, et donc tous les gens qui diront quoi que ce soit sur Hamas, sur son histoire, et il y a énormément à dire, seront complices du terrorisme. Voilà, c'est, bon. Alors ça, c'est clair. Alors là aussi, pas de recul. C'est-à-dire, vous dites ça d'un mouvement qui défend la cause palestinienne. Et s'il y a eu, dans le monde entier, vous avez peut-être regardé ça sur vos écrans, il y a eu ce week-end des manifestations de soutien à la cause palestinienne, pas du tout au Hamas. C'était le soutien à la...
C'est des
voilà, d'abord c'était palestinien, mais c'était pas le soutien au Hamas, c'était à la cause palestinienne. Il y en a eu dans le monde entier, il y en a eu en Amérique latine, il y en a eu au Chili. Je note le Chili parce que à New York, il y en a eu en Colombie, il y en a eu au Venezuela. Bon, alors je m'arrête sur le Chili deux secondes parce qu'il se trouve que le président chilien, sur lequel on avait déjà des inquiétudes, s'est rangé totalement dans le camp pro-israélien et a fait plaisir à Washington. Par contre, il y a eu dans la rue, à Santiago, une manifestation pour la Palestine. Bon, ça c'est vrai pour l'Amérique latine. Ça a été vrai au Canada, ça a été vrai aux États-Unis, ça a été vrai en Europe, en Angleterre, ça a été vrai aux Pays-Bas, ça a été vrai en Espagne, ça a été vrai un peu partout. En Colombie, voilà. Ça a été exact aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc, des manifestations de soutien à la cause palestinienne, il y en a eu dans le monde entier. Pourquoi c'est, je dis la cause palestinienne ? Parce qu'effectivement, pour les gens qui ne sont pas à l'affût de l'actualité palestinienne, qui ne se tiennent pas au courant au jour le jour depuis des années de la réalité de la situation, il n'y a pas eu le Hamas contre l'OLP, contre le Fatah, contre l'autorité. Il n'y a pas eu toutes ces histoires-là entre courants divers de la résistance palestinienne. Il y a eu effectivement une attaque du Hamas, de Palestiniens, pour sortir de leur prison. Et il y a une riposte extraordinairement violente et saignante de la part de l'armée israélienne. Bon, c'est ça qui retient la cause palestinienne, ça consiste à dire ces gens qui sont enfermés dans cette prison à ciel ouvert, la plus grande prison du monde, à un moment donné, ils ont eu envie de respirer. Ils sont sortis de leur prison. C'est une évasion collective ressentie parce qu'ils sont là enfermés depuis des années.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a 75 ans,
Voilà, en plus, ça date pas d'hier.
C'est pas d'hier, voilà. Oui,
et effectivement, donc dans la conscience populaire, chez tous ces manifestants de quelque couleur qu'ils soient, de quelque pays qu'ils fussent, qui ont manifesté ce week-end, il y a simplement une compréhension que la cause palestinienne est une cause juste.
Ouais.
C'est tout. Le reste, après, c'est des détails pour les spécialistes qui disent « Oui, mais Hamas ceci, mais l'autorité palestinienne cela, mais Mahmoud Abbas, etc. » Ça, c'est bien pour les spécialistes qui suivent au jour le jour, qui voient les évolutions, etc. Mais il ne faut pas lancer l'opinion dans des détails secondaires. Le problème, c'est que le peuple palestinien est privé de l'État auquel l'ONU lui a donné un droit et qu'il a besoin et qu'il a droit à cet État par les moyens qui lui restent, c'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'il ne peut pas s'exprimer. Hein, il est divisé. Son territoire lui est grignoté. Petit à petit, il n'en reste presque plus. Tenez-vous bien, je vous donne le chiffre. Il reste 22% du territoire de l'État palestinien tel qu'il a été dessiné par l'ONU en 1967.
Et occupé par les colons.
Voilà. Donc l'État palestinien a perdu 78% de sa superficie telle qu'elle a été définie par l'ONU. Et c'est pas le mauvais Hamas ou Pierre, Paul ou Jacques qui ont fait ça. C'est Israël, les colons, l'armée israélienne qui ont décidé de grignoter petit à petit tout le territoire palestinien. Et si on y prend garde, et c'est ce que signifie le mouvement de résistance qui s'exprime aujourd'hui, les 22% sont dans l'objectif du gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire tout prendre, ne rien laisser aux Palestiniens. Et à ce moment-là, ils pourront dire « Ah ben, on s'en va, puisque de toute façon, on n'a plus de pays ». Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible pour une bonne raison sur laquelle je m'arrête, mais je m'étais déjà arrêté la semaine dernière. L'État palestinien a été défini et tracé par l'ONU. L'ONU n'a jamais changé de position sur son tracé et sur sa décision. Il y a bien deux États avec deux territoires. Donc c'est ça qui doit se mettre en place. Alors on l'a oublié, et il y a beaucoup de bons esprits qui disent « Oui, mais regardez, pratiquement les Palestiniens, on leur a tout pris, maintenant c'est même plus la peine qu'ils se battent. » Non, non. Là, je dis c'est une position réaliste, mais en fait défaitiste. Ça veut dire « J'ai subi des revers, j'ai affaire à quelqu'un qui est plus fort que moi pour l'instant, à quelqu'un qui a des soutiens internationaux énormes, je pense, évidemment, de la part des États-Unis, et je n'y arriverai pas. » Ce qui est en train de se passer, c'est que cette idée « je n'y arriverai pas » est en train de devenir une lettre morte. Si, ils y arriveront parce que l'ONU l'a décidé, et puis il y a aujourd'hui, derrière les positions de l'ONU, des puissances qui disent « c'est ça, c'est vers là qu'il faut aller ». Alors ce n'est pas demain matin qu'on va dire « on retrace l'État palestinien et on chasse tous les colons qui sont sur les 78% du territoire ». Il faudra trouver un modus vivendi. Mais il faudra que cette terre qui a été volée aux Palestiniens soit rendue aux Palestiniens.
Restituée, ouais.
C'est un processus. Mais quand le processus est lancé, avec un État palestinien qui existe et qui donc, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas du tout la volonté d'ensanglanter le paysage, un État palestinien qui existe, il a une armée. Il a une armée. Ça veut dire qu'on sort complètement de la situation où on a d'un côté une armée dont la réputation est peut-être un peu surfaite aujourd'hui, mais enfin une armée réelle avec de gros équipements, une grosse aide financière permanente de la part des États-Unis, et en face, on n'a que des groupes. Alors on les appelle terroristes. Effectivement, ce n'est pas le Hamas, n'est pas l'armée de l'État palestinien qui n'existe pas. Pas plus que le Fatah, pas plus que l'OLP n'était l'armée d'un État palestinien. Mais un État palestinien qui existerait, il existe dans les textes de l'ONU, qui serait reconnu, il aurait droit à avoir une armée. Et à ce moment-là, changement radical. On dirait plus comme M. Dupond-Moretti, hein, des attaques terroristes. On dirait qu'il y a eu un problème de frontière entre les deux armées, l'armée palestinienne d'un côté et l'armée israélienne de l'autre. Bon, on va trouver une solution, un arbitrage entre deux États, ça existe. Le Conseil de sécurité se réunit, en discute. Pour l'instant, ce n'est pas possible. On n'a pas affaire à un État face à un autre. On a affaire à un État qui maltraite une population qui n'est pas la sienne. C'est ça. Alors, ce monsieur Dupond-Moretti est allé donc dans cette circulaire adressée à tous les procureurs, où il invite donc tous les procureurs, donc l'appareil du ministère de la Justice, à sévir, parce qu'il dit « la tenue publique de propos vantant les attaques précitées en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la diffusion publique de messages insistant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique, en raison des attaques qu'ils ont organisées, devront ainsi faire l'objet de poursuites du chef précité », c'est-à-dire répression. Ouais. Répression. Donc, on ne, surtout, ne parlez pas du contexte que je viens d'essayer très, très rapidement de vous brosser. Dès l'instant où quelqu'un dit « mais c'était normal qu'ils se révoltent parce qu'ils en avaient assez d'être emprisonnés et d'être tirés comme des lapins tous les matins ». Alors, irrégulièrement, il y avait des périodes où on en tuait moins que d'autres, mais il y avait toujours, et ça n'a pas arrêté depuis que le Hamas s'est installé à Gaza, donc depuis 2007. Il ne s'est pas passé de... Pas tous les ans, mais tout, très régulièrement, il y a eu des attaques, et donc il n'y a eu que des morts palestiniens. C'est la première fois qu'il y a des morts de l'autre côté. Ça, c'est ça la nouveauté. Mais ça, il ne faut pas, parce que ça, c'est de l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas ça. C'est une prison. Je reprends le propos d'un écrivain, d'un historien plutôt des États-Unis, qui s'appelle Norman Finkelstein, dont les parents sont morts à Auschwitz, et qui dit « c'est le plus grand camp de concentration du monde ». Et il sait de quoi il parle. Hein. Alors, ce pauvre Norman Finkelstein, enfin non, je lui tire mon chapeau, et en même temps je dis ce pauvre, parce que le fait qu'il ait tenu ses propos, alors c'est un universitaire brillant, on lui a supprimé tous les postes dans les universités des États-Unis, parce qu'il disait la vérité. Ce que mes parents ont vécu quand ils ont été passés au four, hein, c'est ce qu'on promet aux Palestiniens aujourd'hui. Je ne veux pas. Il dit la vérité en disant ça, Norman Finkelstein. Alors, je vous invite à lire ses propos. On la trouve. Il a refait un très très long article qui est en circulation sur le net. Retrouvez-le. Mais c'est bien ce contexte-là qu'il faut comprendre. Et donc, Monsieur Dupond-Moretti, là aussi, met de l'huile sur le feu. Vous ne voulez, il dit à tous les procureurs, toute personne qui manifeste de la sympathie pour la cause palestinienne et qui par mégarde prononce le mot Hamas est en tort. Poursuivez-le. C'est de l'incitation, alors c'est pas de l'incitation, c'est de l'antisémitisme. Alors il n'y a pas d'antisémitisme du tout là-dedans, parce que si vous prenez le temps de lire ce que je fais, et que vous lisez régulièrement des articles d'un certain nombre de journalistes israéliens qui vivent en Israël, qui publient dans des quotidiens israéliens, comme Haaretz par exemple, vous avez un certain nombre d'intellectuels de haut niveau en Israël qui disent de toute façon, la situation est telle que c'est pas antisémite. Hein. Nous, ils disent, nous sommes juifs, nous sommes écrivains juifs, nous sommes historiens juifs, mais nous ne nous reconnaissons pas dans la politique de M. Netanyahou, qui est une politique raciste. Et pour achever là-dessus, comment ne pas expliquer les réactions donc, des manifestants dans le monde entier ce dimanche, quand ils ont lu, comme vous pouvez le lire, ou comme j'ai pu le faire moi, les propos du ministre de la Défense de M. Benjamin Netanyahou, qui, parlant des Palestiniens, a dit « ces animaux humains oui. ». Il l'a dit, c'était pas un coup de colère, c'est un ministre en exercice d'un gouvernement en exercice reconnu par la communauté internationale qui tient ce propos-là. Or, ce propos-là, mettez-le en lien avec l'histoire qui est, hélas, pas si éloignée. Parce que qui a dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas fréquentables et qu'il fallait éliminer hein? Alors, souvenez-vous, alors qu'il fallait éliminer les juifs, bien entendu, les tziganes, bien entendu, les homosexuels, bien entendu. Ça, c'est Hitler, Goebbels, Rosenberg. C'est de là que ça vient. C'est le même discours. Alors, quand j'entends un ministre d'Israël qui tient un discours nazi, je me dis, Israël, je dis, le gouvernement d'Israël actuel fait fausse route. Et c'est pour ça qu'il y a, en Israël même, des voix sérieuses, posées, qui disent, il faut arrêter ça, c'est pas ça. Hein. On dit qu'on est une démocratie. Si un ministre en exercice tient ce genre de propos, on n'est plus en démocratie. Et il y a en Israël des citoyens sincères qui voudraient bien vivre dans une démocratie. D'ailleurs, ils étaient tellement soucieux de vivre en démocratie que ça fait des semaines et des mois maintenant qu'il y a une opposition au gouvernement Netanyahou qui s'exprime dans la rue parce qu'ils voyaient bien où allait Netanyahou qui avait fabriqué le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël en s'associant avec les groupes les plus terroristes de droite d'Israël. C'est ça qui se passait. Et donc, cette coupure-là, elle existe toujours. Toujours, elle se ressort dans les articles de journaux que je vous citais, dans Haaretz, Ilan Pappé, Gideon Levy, etc. Elle se ressort parce que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, l'armée israélienne massacre des Gazaouis à longueur de journée qui fait changer ces gens-là de position. Ils ont la même analyse. Ils continuent à considérer Netanyahou comme un dangereux personnage et son gouvernement comme un gouvernement raciste. Bon. Et donc, ils ont raison de s'y opposer. pour l'instant, d'ailleurs, il n'aurait rien arrivé, je signale ça, parce qu'ils sont peut-être considérés comme des gens qu'il faudra ressortir au moment où, quelquefois, il n'est pas impossible qu'il y ait un retournement de situation politique et on aurait là un certain nombre de personnages de qualité qui auraient une autre vision de la politique d'Israël. Alors, on n'en est pas là, mais je voulais clarifier ça. Je voulais d'autant plus le faire que Radio Galère Sonore d'accueillir sur ses antennes depuis peut-être 2 décennies, voire plus, une émission hebdomadaire sur la Palestine, qui fait qu'il y a toujours eu des équipes qui se sont succédées sur l'antenne de cette radio, qui ont donné de l'actualité exacte en expliquant ce qui se passait, en donnant la parole à des interviewés, en expliquant, en faisant venir des poètes, en faisant venir des musiciens, etc. L'actualité sur la Palestine, quand on veut la suivre, on peut la suivre, c'est assez facile, grâce à des radios comme Radio Galère, et il y en a d'autres. Et donc, quand... Tout d'un coup, on dit « Ah, il y a des manifestants pro-palestiniens ». Je ne dis pas pro-Hamas, pro-palestiniens. Ben, c'est le fruit aussi de ce travail de très très longue haleine, c'est-à-dire qu'il y a dans ce pays, comme dans tous les pays du monde, des gens suffisamment attentifs, suffisamment soucieux des droits de l'homme pour se tenir au courant très régulièrement de l'actualité palestinienne. Alors, ils ne savent pas forcément tous les détails. Ils ne savent pas le nom de tel ministre. Ils ne savent pas les conflits qu'il peut y avoir. Ils ne savent pas que le Hamas est passé de plusieurs positions, que le Hamas a été effectivement créé par Israël pour diviser la résistance palestinienne, mais qu'il a finalement compris à quoi il servait, puis maintenant il n'est plus du tout entre les mains des Israéliens. Bon, donc tout ça, on peut le savoir, mais l'important, c'est que le courant de sympathie humanitaire pour le peuple palestinien n'a jamais cessé. Et c'est ça qui ressort spontanément dans toutes les rues du monde qui est sorti ce week-end. C'était ça, on défend la Palestine, le droit aux Palestiniens de vivre sur leur terre tranquillement. Alors il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on a pu retrouver dans des manifestations qui étaient le descendant de ceux qui ont été chassés, je rappelle, parce que c'est le point de départ, dès la constitution de l'État d'Israël en 1948, Israël pousse à la porte le fusil dans le dos et la mitraillette dans le dos, 800 000 Palestiniens qui s'en vont. Et vous en retrouvez effectivement des familles à Londres, à Québec, à Toronto, à Montréal, à New York, à Chicago, etc. C'est de là que ça vient. Ils ne sont pas partis comme ça parce qu'ils voulaient changer d'air. Ils ont parti le fusil dans le dos pour ne pas mourir. Et donc, ceux qui sont encore en Palestine veulent ne pas connaître le même sort. Et en même temps, il y a des liens. Parce que ces gens-là donc, qui sont partis la mitraillette dans le dos, quelquefois reviennent, envoient des nouvelles, viennent au pays, etc. Et donc le fil n'est jamais rompu. C'est ça que nos politiciens, toujours à court de conflits et de grands effets de manche, ne voient pas. C'est-à-dire que le fil de la résistance palestinienne n'a jamais été coupé depuis 1948. De génération en génération. Et c'est ce fil-là qui ressort chaque fois qu'il y a des exactions du type de celles auxquelles on assiste. Ça, c'est pour redonner le cadre. Donc, les propos racistes d'un ministre israélien sont inacceptables, et à caractère nazi, caractérisé. Bon, donc, c'est grave, ça veut dire que ce gouvernement-là est honteux. Et honteux, Netanyahou a fait le choix de mettre sur pied ce gouvernement-là comme ultime solution. Je pense que les jours de Netanyahou sont comptés et que si Israël veut veut continuer à vivre tranquille à côté de l'État palestinien, il vaudrait mieux qu'il arrive à la tête d'Israël des équipes un peu plus intelligentes. Bon, ça, c'est l'avenir. Je ne le prédis pas, mais c'est très important de s'en rendre compte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe alors au niveau du terrain, puis au niveau surtout des coulisses diplomatiques? Car effectivement, en une semaine maintenant, enfin on est à 10 jours du début de l'attaque, il s'est passé un certain nombre de choses. La première des choses sur laquelle je reviens, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que à la fois la Russie et la Chine ont une position parfaitement claire, la Chine encore plus, elle l'a confirmé, c'est-à-dire qu'il est écrit qu'il doit y avoir un État palestinien, cet État palestinien doit être créé. Et ce que dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois ces derniers jours, c'est de dire la récurrence de ce conflit, c'est-à-dire le fait qu'il y a sans arrêt depuis 1948 des accrochages, il n'y a pas que les événements de ces derniers jours, montre qu'il y a toujours un obstacle à la paix qui est le fait que cet État n'a pas été installé et mis en place. Donc c'est vers là qu'il faut aller pour sortir de ce fait qu'autrement on peut rester encore 50 ans avec des massacres de masse, des horreurs, etc. Non, On a décidé, enfin la Chine est claire là-dessus, il faut en sortir. La Russie est du même avis. Et donc, effectivement, on a donc deux poids lourds au Conseil de sécurité qui disent maintenant, c'est dans ce sens-là qu'ils voient. C'est pas plus. Il rentre pas, et il a tout à fait raison. Moi, je partage la position de la diplomatie chinoise. On n'a pas à dire aujourd'hui, il y a un tel qui a tiré sur un autre, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison. Il y a un enfant qui est mort là, puis il y a un enfant qui est mort ici, et puis il y a ceux qui faisaient une surprise partie qui sont morts, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est de regarder l'avenir de cette région-là du monde, parce qu'il faut bien voir. Et là-dessus, il faut être parfaitement lucide. C'est que tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, cette région-là du monde ne sera pas en paix. C'est impossible.
C'est toujours une marmite qui boue.
Voilà, c'est une marmite qui boue sans arrêt depuis 75 ans. Ouais. Hein. Alors, t'entends le couvercle saute, t'entends il retombe, t'entends il ressaute, mais de toute façon, le monde entier sait, et c'est pour ça que l'écho, il est mondial, les manifestations du week-end, elles étaient mondiales, il y en avait partout, parce que tout le monde a bien compris, même si c'est pas un géostratège en chambre, tout le monde a bien compris que cette situation pourrit la politique mondiale. Et donc c'est de ça qu'il faut sortir, c'est l'intérêt majeur de
surtout,
la totalité
et surtout le Moyen-Orient.
Voilà, à commencer par le Moyen-Orient.
Toutes ces régions, ils sont pas en paix. Voilà.
Alors après, on va vous dire, c'est la faute à Israël, après c'est la faute au Hezbollah, c'est si. Non, il y a un abcès, c'est cet abcès-là qu'il faut vider, et il ne peut être vidé qu'avec la souveraineté d'un État palestinien sur sa terre. Et à ce moment-là, on a deux États, on a deux armées, on a le Conseil de sécurité qui peut arbitrer tout, c'est tout autre chose, la situation est radicalement changée. Et ça ne veut pas dire, parce qu'on entend souvent ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun responsable palestinien, quel que soit le parti auquel il adhère, qui a dit qu'il voulait détruire l'Israël et rayer Israël de la carte. À un moment donné, ça a été dit, mais à d'autres périodes, c'est fini, ça n'a plus été. C'est pas ça le problème. Les deux États, c'est parfaitement clair. L'État d'Israël reste. Si les gens qui y sont pas bien, ou si les colons qui perdent leur terre et qui sont obligés de rentrer d'où ils viennent, ça pourra arriver. Mais il faut que la paix s'installe sur ce secteur-là du monde. Sinon, le monde aura une plaie permanente qui suppurera très régulièrement. Et suppurer, ça veut dire des centaines de morts, des milliers de morts, des enfants, des femmes et tout. C'est ça. La plaie qui suppure. C'est des vies, des victimes, c'est des humains qui meurent, qui souffrent, etc. Et qui sont mal soignés. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire un peu pour resituer la situation. Alors, il se passe, on voit, il y a beaucoup de choses de mouvements divers qui ont lieu dans les coulisses pour l'instant. On sent bien que l'approche mûrit, et je pense que ça va dans le sens d'empêcher Israël de faire ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire de nettoyer la moitié de la bande de Gaza, c'est-à-dire en gros de mettre à la porte 1,5 million de personnes, une paille, deux fois plus que la Nakba en 48, 1,5 million de personnes pour les jeter ou à la mer, pour les entasser dans des logements détruits par les bombes. Enfin, voilà, c'est même pas sérieux, c'est même inacceptable. Bon. Mais ça n'aura pas lieu parce qu'effectivement, c'est mon analyse aujourd'hui, les mouvements diplomatiques sont en train de se mettre en place pour éviter que ça ait lieu et pour arrêter la folie Netanyahou. Alors ces mouvements diplomatiques, ils sont de plusieurs types. Il y a une visite de Biden qui est aujourd'hui à Amman en Jordanie.
Il y avait une visite du ministre des Affaires étrangères américaine qui est venu au Moyen-Orient. Mais quand il a monté dans l'avion, il a dit « Avant tout, je suis juif voilà. ». Est-ce qu'il est venu en tant que ministre des Affaires étrangères d'Israël ou...
Il est venu mettre de l'huile sur le feu.
Voilà, exactement, voilà. Et de plus. Et Biden, c'est pareil, elle est dans son truc « Je défends l'État d'Israël, je suis juif
voilà. ».
Non.
Oui, oui. Ah oui, ça, on devient juif. Et comme en 1968, on était tous des juifs allemands, souvenez-vous, avec Cohn-Bendit, c'est pareil. Ouais. Biden n'est pas juif. Mais enfin, l'important, c'est qu'il soit aujourd'hui à Amman, en Jordanie, où il va rencontrer Netanyahou, il va rencontrer le président égyptien et il va rencontrer le roi de Jordanie. Donc, effectivement, il a un certain nombre d'acteurs, y compris la Jordanie et l'Égypte, qui sont des pays qui ont signé des traités de paix avec Israël, donc qui ne sont pas soupçonnables de vouloir détruire l'État d'Israël, mais qui voient bien les conséquences, parce qu'ils les ont sous les yeux, et qui donc devraient intervenir dans le sens de calmer le régime israélien. Ça, c'est la première chose.
De toute façon, il y a un truc où on ne le dit pas, c'est que pratiquement tous les pays arabes sont unanimes à ce que
tout à fait.
Le peuple qui se trouve à Gaza reste au même endroit.
Reste à Gaza. Voilà, oui, parce exactement. Que ça serait trop beau de faire le cadeau à Israël et aux colons de ce reste de territoire qu'ils n'ont pas pris, évidemment. Et on sait, alors même si c'est bouleversant de le dire, qu'il y a des familles gazaouis qui disent « on mourra ici, mais on ne partira pas ». Et ça, c'est épouvantable.
Ça a été dit, c'est vrai.
Et ça, c'est épouvantable d'entendre ça, en soi. Mais effectivement, les leçons de cette histoire, relativement courte, 75 ans, sont très très claires. Si vous laissez un mètre carré, un hectare de terrain, les colons vont vous le prendre. C'est tout. Donc on ne laisse rien, tant pis on mourra sur place. Alors je ne fais pas du tout l'apologie de ces morts-là, hein, parce que dans le même temps où donc Biden essaye de faire cette réunion un peu diplomatique à Amman, le président russe est à Pékin avec Xi Jinping. Alors le motif, ce n'est pas la situation en Palestine, le motif c'est la célébration de l'anniversaire du lancement de la route de la soie en 2013. Exactement. Par le président chinois. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait par hasard que Poutine se trouve à Pékin aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne chose. Alors ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que ce n'est pas parce que Biden essaye d'écouter les uns et les autres à Amman que Biden est devenu tout d'un coup intelligent et conciliant. Non, parce que dans le même temps où il fait ça, qui est un geste diplomatique, il fait venir d'abord un porte-avions. Il en fait venir un deuxième. Ouais. Maintenant, il y a un porte-hélicoptère qui vient du golfe Persique, qui est en train d'arriver aussi dans la mer Rouge. Il va arriver aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un porte-avions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rentrer dans Gaza. Hein, d'ailleurs, d'abord, les États-Unis ne vont pas se mêler de ces bombardements. L'excuse, mais c'est presque triste de l'écouter, l'excuse, c'est de dire ils seront là au cas où il y aurait trop de blessés et trop de morts, comme infirmiers. Un porte-avions infirmerie. Mais on est arrivé à des niveaux de délire dans le langage, le porte-avions infirmier. Avec, en plus, bon, quelques bombes atomiques, des chasseurs supersoniques. C'est un détail. C'est une infirmerie. Regardez, il y a 5000 hommes, c'est tous des infirmiers. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est pas possible. Alors, il faut savoir, par contre, je citais le porte-hélicoptère qui est le Bataan, je crois. Lui, il a 2000 marines, ce qu'on peut effectivement, avec des gros hélicoptères, parachuter. Mais je ne sais pas si les États-Unis auront ce courage-là. Parce que, souvenez-vous, la dernière fois qu'ils ont parachuté des marines, c'était en Somalie. Ils en ont un très, très mauvais souvenir. Hein. Donc, les rhodomontades, on en fait. On monte un porte-avions, puis deux porte-avions, et 5000 hommes, et des infirmiers par-ci, et des infirmiers par-là, et un porte-hélicoptère et tout. Et en fait, ils ont la peur terrible de leur vie. Il ne faut surtout pas qu'on intervienne, parce qu'on va prendre des coups. Hein, et ça, c'est très mauvais pour la campagne électorale, parce qu'imaginez que dans quelques mois, quand Biden est en campagne, on voit arriver, vous savez, le cercueil avec le drapeau étoilé, hein, sur les aéroports militaires. Ça, c'est très, très mauvais pour l'électeur américain. Bon, donc ça, il ne faut pas. Mais c'est l'habitude, c'est-à-dire c'est une espèce de réflexe. Il y a quelque chose qui me dérange, j'envoie un porte-avions. Hein, voilà. Alors, ils en ont 10, ils peuvent, là, il n'y en a que 2, il en reste 8, ils peuvent envoyer les autres aussi. Hein. Ne vous gênez pas, ça ne fait rien avancer. Ça ne fait que vous montrer comme une créature caricaturale que vous êtes. Hein. Vous êtes celui, c'est Saint-Georges qui fait régner le bonheur dans le monde. Vous n'êtes rien du tout. Hein. Vous êtes simplement une démonstration, une espèce de comédie. Regardez, je suis le plus fort, je peux tuer tout le monde. Mais personne ne veut mourir pour vous et pas tellement tous les citoyens des États-Unis, même. Hein, je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient tous convaincus. Bon. Donc ça, c'est l'aspect diplomatique. Donc la Ligue arabe aussi s'est réunie et a pris une position extrêmement claire. La Turquie a pris une position extrêmement claire. Dans tous les pays musulmans majoritairement, les positions sont tout à fait claires aussi. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que la cause palestinienne, elle est soutenue dans le monde entier. Et c'est bien ça qu'il va falloir mettre dans la tête de Benjamin Netanyahou. Alors ça va venir petit à petit. Plus ça vient vite, moins il y a de sang versé à Gaza. Ça, c'est le raisonnement humain élémentaire. Ceci étant, le sang de Gaza n'est pas une émotion qui doit beaucoup tordre le cœur de Netanyahou. Mais il faudra bien que ça vienne. Hein, et il faudra qu'on lui dise, si, c'est quand même important que tu te rendes compte que tu vas faire saigner beaucoup, et surtout maintenant que tu fais aussi saigner du sang israélien, ce qui n'arrivait pas. Et ça, c'est une donnée tout à fait nouvelle de cette situation, puisqu'on est, alors, je vous dis de tête des chiffres qui sont publiés par le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, pour, depuis les débuts du Hamas à Gaza, on en est à des niveaux de mort de 1 contre 20, c'est-à-dire un Israélien mort pour 20 Palestiniens tués. Et à d'autres moments, ça a été plus que ça. Donc, les chiffres sont incontestables, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, les victimes, c'est bien ceux qui ont été majoritairement tués. Je crois qu'on va arrêter là sur ce sujet, sauf si Habib veut encore ajouter quelque chose.
Non, l'erreur que le gouvernement extrémiste israélien a commis, c'est d'abord Netanyahou et ses équipes qu'ils ont voulu à tout prix effacer de la carte Gaza.
Voilà.
Ça, c'est clair et net. Par contre, l'offensive palestinienne, c'est la première fois depuis 75 ans a été vraiment l'armée israélienne a perdu des hommes. C'est la première fois. Ouais. Il y a la guerre de Kippour, c'est vrai, 73, mais cette fois-ci, c'est l'intérieur d'Israël a été attaqué. Ça, c'est surprenant. Ça, c'est vraiment fort. Par contre, c'est sûr que Gaza va subir beaucoup, beaucoup de morts et des blessés, c'est sûr. Et que c'est une prison à ciel ouvert depuis 75 ans. Et puis, actuellement, pas d'électricité, pas d'eau, et surtout pas de produits alimentaires. Ouais. L'Égypte a voulu fournir, mais on l'a obligé de rester à la frontière au Sinaï.
Tout à fait.
C'est tout. Je peux ajouter quelque chose ?
Vas-y, bien sûr.
Parce qu'on en est à la fin, juste rappeler qu'il y a une enquête en cours à la Cour pénale internationale sur la Palestine et que j'espère qu'elle donnera quelque chose en faveur des Palestiniens.
Ce qu'il faut effectivement souligner, tu fais bien de le dire, il y a effectivement des familles de Gaza qui ont porté plainte pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, contre les responsables israéliens à Gaza. Et donc c'est la première fois que la Cour pénale accepte des plaintes. Alors l'instruction n'est pas plus avancée que ça, mais la plainte a été reçue. C'est-à-dire que pour la Cour pénale internationale, ceci est très important du point de vue du droit, parce que c'est lié aussi à la question de l'État palestinien en gestation. La Cour pénale internationale a reconnu que l'État de Palestine existait. Il a adhéré à la Convention de Rome. Il existe. C'est une preuve de plus. Et j'ajouterai, parce que j'ai eu un échange avec des lecteurs à ce sujet, que ce qui est très important aussi de savoir, c'est que, vous vous souvenez sans doute, qu'en 1920, la Société des Nations nouvellement créée a décidé de mettre deux pays sous mandat, c'est-à-dire de mettre deux pays qui existaient sous mandat, c'est-à-dire sous la tutelle d'une puissance étrangère, pour leur permettre de grandir. C'était un petit peu un bâton, un éducateur. Ces deux pays, c'était la Syrie, qui a été donnée sous mandat à la France. Donc la Syrie existait, mais elle existe depuis 3000 ans, donc il n'y a pas de souci. Et l'autre territoire qui existait, c'était la Palestine. C'est-à-dire qu'en 2020, la Société des Nations a reconnu qu'il y avait un État palestinien. Donc il y a antériorité, l'État de Palestine, il est reconnu par le droit international bien avant l'État d'Israël, qui n'existait pas en 1920. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc au niveau du droit, et là-dessus, dernière observation, le niveau du droit est très très important, parce que dans les sociétés humaines qui doivent vivre en bonne intelligence, c'est compliqué la société humaine, mais on essaye de trouver des règles pour que tout le monde ne tire pas sur les autres et que les uns n'assassinent pas tous les autres. Bon, il y a le choix entre la force d'un côté brut et d'autre part le droit. Alors le droit, c'est pas miraculeux, quelquefois il y a des erreurs judiciaires, c'est pas très bien, mais c'est au moins un cadre qui permet d'éviter la plupart des horreurs. Pas toutes, bien entendu, je rêve pas devant vous, mais à choisir entre la force brute et le droit, il faut choisir le chemin du droit. Le chemin du droit, c'est l'ONU, l'État palestinien, la Cour pénale internationale, et c'est ça qui devra calmer à un moment donné, non seulement Israël, mais les États-Unis, parce que pour les États-Unis, ce droit-là, dont ils ont été les avocats, la Cour pénale internationale, je rappelle, c'est une création, une invention de Bill Clinton. mais les États-Unis ne l'ont pas reconnu, c'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas. Donc ça, c'est très très important de dire, il faudra qu'un jour, et ça c'est l'avenir du monde, un monde moins violent, moins brutal, ouais. Il faudra un jour que les États-Unis respectent les textes internationaux. Le problème est posé. Ça viendra parce qu'il y a maintenant des gros interlocuteurs qui sont la Chine, la Russie, une partie des BRICS qui disent qu'il faudra effectivement qu'un jour les États-Unis rentrent dans une espèce de discipline collective. Personne ne veut la destruction des États-Unis, mais pour l'instant les États-Unis ont bien envie de la destruction d'autres. Ça, ça doit cesser. Voilà, c'est là la question de la symétrie.
Je ne sais pas si tu as parlé un peu du ministre iranien qui a visité...
Oui.
Le Liban, la Syrie.
Exact. Alors, j'ai pas, on peut dire encore un mot parce que ouais. le temps passe, mais on a vu des premières réactions donc, à la frontière nord d'Israël, puisque le Hezbollah, dont chacun attend l'entrée dans le conflit, s'est limité à intervenir dans des zones qui font litige entre le Liban. Là, il y a une zone frontalière qui est discutée au niveau de ce qu'on appelle les fermes de Sheba, donc c'est dans le sud de, ouais. du Liban. Et donc, le Hezbollah s'est pour l'instant contenté d'intervenir. Venir militairement dans cette zone-là, qui est une zone contestée, en détruisant à peu près tout l'appareil de surveillance israélien. C'est-à-dire les radars, les caméras, etc. Il ne reste rien. On a vu des vidéos, il ne reste rien.
C'est ça.
Donc là, simplement, c'est juste un petit avertissement, disant on est là, on vous a vu. Il y a d'ailleurs quelques. Je crois qu'ils ont perdu 3 soldats, le Hezbollah, hein, mais ils sont là, et donc Israël est prévenu, c'est-à-dire que s'il le faut, le Hezbollah est prêt. Le Hezbollah est prêt, il est, je pense, depuis longtemps, il est armé depuis longtemps, il connaît l'armée israélienne puisqu'il l'a battue en 2006, il sait comment elle travaille, et il sait que, et ça je l'ajoute parce que je pense que c'est l'avis de beaucoup d'experts militaires, l'armée israélienne n'est plus ce qu'elle était.
Non, pas du tout. Ouais,
bon. Ça, on verra pour la suite.
Il n'y a que l'armée de l'air.
Voilà, il reste que ça, les bombardements.
Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Parce qu'il se passe des choses, il se passe des choses ailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est d'une part que cette situation, comme je vous le disais, tout le justifie.
Tout est lié.
La situation, toute crise en Palestine a des incidences dans le monde entier. Alors, prenons le cas de pays de l'Union européenne. Alors, il y a eu un exemple, plusieurs exemples flagrants. Mais le dernier, c'est une prise de position de M. Borrell, le ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'Union européenne, et de M. Charles Michel, donc qui est le président en exercice de l'Union européenne, qui ont désavoué dans un communiqué officiel la position prise par Mme Ursula von der Leyen, commissaire européenne, qui est allée à Tel Aviv pour mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire pour dire qu'Israël avait raison sur tout. Hein. Contre les terroristes du Hamas. Ça, c'est... Bon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est une première, parce que je le salue, enfin, ces deux personnages qui, depuis des mois et des mois, même depuis plusieurs années, depuis qu'Ursula von der Leyen est arrivée à la tête de la Commission, se font marcher sur les pieds par ce personnage, se font ridiculiser par ce personnage. Ils ont enfin dit, mais attendez, c'est pas elle qui commande. Non, c'est pas elle qui commande. C'est pas elle qui commande. À telle enseigne que, souvenez-vous, quand M. Macron l'a emmenée avec lui à Pékin pour la mettre en valeur, les Chinois l'ont remise dans l'avion... J'allais pas dire comme une malpropre, comme un simple touriste. Ouais. Hein, c'est ça, Ursula. Bon, alors, je suis assez satisfait. Je n'ai pas trop d'illusions sur les capacités politiques de Joseph Borrell. Mais enfin, le fait qu'il soit obligé de dire « c'est pas elle qui prend la parole », c'est-à-dire qu'ils ont reconnu tous les deux, le président Michel et le Joseph Borrell, que Mme von der Leyen mettait de l'huile sur le feu et que ce n'était pas si simple la situation. Et qu'en plus, l'Union européenne, elle a quand même intérêt à avoir de bonnes relations avec beaucoup de pays arabes qui sont nombreux dans la région et qui aimeraient bien que cette question palestinienne soit réglée une bonne fois pour toutes. Alors ça, c'est un signe très, très intéressant. Mais il a fallu qu'on en arrive là, c'est-à-dire qu'elle pousse la provocation jusqu'à aller à Tel Aviv dire « vous avez raison ». Ça veut dire « continuez, vous avez mon feu vert ». Le feu vert de Mme von der Leyen, c'est rien du tout. Elle n'est rien. C'est un fonctionnaire de la Commission européenne. Hein. Bon, alors, on la connaît, on sait ce qu'elle a fait, on sait en particulier le rôle qu'elle a... J'insiste là-dessus parce que je trouve ça particulièrement douloureux et inacceptable. C'est elle qui a décidé que l'Europe se vaccinerait après avec les vaccins Pfizer parce que son mari est représentant de Pfizer en Allemagne.
Ouais.
Donc ça, c'est inacceptable. C'est un cas de corruption à des niveaux à peine croyables. Hein, et on a utilisé dans toute l'Europe un vaccin qui était sans doute un des plus... préoccupant, puisqu'il était très récent, avec une technique vaccinale jamais utilisée à cette échelle. Et donc, on a pris des risques qui n'étaient pas nécessaires de prendre. Il y avait beaucoup d'autres possibilités vaccinales. Je ne fais pas une propagande anti-vax, hein, mais il y avait du choix. Madame van der Leyen et Monsieur van der Leyen ont choisi tous Pfizer, hein, avec résultat des dizaines de milliards de bénéfices supplémentaires pour Pfizer. Bon. C'était un petit détail au passage, mais ça c'est très très important. Il y a une autre manifestation par rapport à la position de Madame van der Leyen qui est venue du ministre des Affaires étrangères d'Irlande. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit mais elle a été mandatée par rien du tout. On ne nous a pas demandé notre avis. Alors elle parle au nom de 400 millions d'Européens, mais nous, on est dans l'Europe, hein, on a un gouvernement, mais on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'elle est allée dire. Hein. Donc effectivement, cette position et donc ce conflit israélo-palestinien est en train de produire toute une série de fractures au sein de l'Union européenne. Alors c'était déjà pas brillant avec la question ukrainienne, ça se complique, mais on arrive... On réouvre les yeux sur des réalités. Madame von der Leyen n'est rien. C'est tout, point. Même si elle est bien copine avec Emmanuel Macron, on s'en fiche. Hein. Ça n'a pas de rapport. Elle n'a pas de pouvoir. Et tant qu'on la laisse faire, et si on la laisse faire, c'est qu'on est content de ce qu'elle dit, parce qu'elle fait le travail. Hein. Elle fait le travail que les États-Unis aiment bien qu'elle fasse, sur tout ça. Mais elle va continuer. Donc il faudra un jour qu'elle s'arrête. Et je ne parle pas des autres cas de corruption très très avancés qui ont été détectés dans les sommets de la Commission européenne. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit carrément licenciée pour faute professionnelle. Hein, c'est à peine croyable. Bon. Qui est-ce qui bouge aussi ? Ben, Monsieur Schröder. Monsieur Schröder, donc l'ancien chancelier allemand, qui s'est aperçu que le gouvernement allemand actuel avait des positions de va-t-en-guerre à la fois en Ukraine et en Israël, a dit qu'il faudrait quand même un peu se calmer. Et il a raison de le faire, d'autant plus que je pense que dans la profondeur à la fois du patronat allemand et de la classe travailleuse allemande, on est en train de se rendre compte que l'Allemagne va très mal. L'Allemagne va très mal. On annonce une baisse de la production sur 2023. Pas beaucoup, moins 0,5, moins, mais enfin une baisse. Donc l'Allemagne est en crise, ça continue. Hein, et donc la politique menée par le gouvernement actuel, je signale que le SPD, donc le parti de M. Scholz, a perdu 10 points par rapport aux précédentes élections. Donc son taux de popularité est autour de 15%. C'est un peu faible comme soutien populaire pour mener un gouvernement. Et surtout pour que ce gouvernement se permette de fournir des armes et d'appeler à la guerre en permanence contre la Russie. Ce qui est une grave erreur, mais c'est pas qu'une erreur. C'est inquiétant en ce sens que une Allemagne qui se met à avoir une espèce d'obsession anti-russe, c'est très mauvais dans l'histoire parce qu'il y a de très très mauvais souvenirs. Une obsession anti-russe portée par des Allemagnes, par une Allemagne, un gouvernement, que ce soit Bismarck, que ce soit Hitler, ça veut dire qu'on se prépare à engager les armes, on se prépare à se battre avec la Russie. Ça, c'est très mauvais parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui en souffre, c'est tout le continent qui, à ce moment-là, est bouleversé. On a là, l'histoire des deux derniers siècles est tellement limpide par rapport à ça qu'on ne peut qu'inviter M. Scholz à réfléchir et à se calmer. Lui et ses verts de gris, ses ministres de la Défense et ministres des Affaires étrangères, qui sont parmi les plus grands pouces au crime de la planète écologique, et c'est pas peu dire. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Je voulais vous dire des petites choses, des nouvelles comme ça en passant, mais qui ne sont pas forcément toutes bonnes. L'Équateur avait donc une élection présidentielle en préparation. Cette élection présidentielle a eu lieu. Et c'est le chef de la banane qui a gagné. Alors je l'appelle le chef de la banane. C'est donc le plus gros milliardaire équatorien. Vous savez que la culture de la banane est ce qui fait vivre l'Équateur. C'est le plus gros exportateur mondial de banane. Et donc Monsieur Noboa, qui est le baron de la banane, vient d'être élu président de la République avec 52%, pas tout à fait, des voix. Il a donc battu Madame González, qui portait les espoirs d'une gauche un peu plus présentable. Donc c'est encore raté. Donc c'est la multinationale de la banane et les États-Unis derrière, voilà, qui a encore gagné la présidence en Équateur. Je dis un mot sur le Chili, mais je l'ai cité tout à l'heure. Donc M. Boric est totalement rallié aux États-Unis, même si dans l'opinion, tout le monde ne l'apprécie pas. Et puis, dernière aventure électorale, la Pologne vient d'élire donc un parlement nouveau avec une promesse, d'après les chiffres qu'on a déjà, d'un changement de majorité, c'est-à-dire que le parti pour la justice qui est au pouvoir et qui s'est signalé par des positions, alors pas guerrière, c'est-à-dire à la fois guerrière contre la Russie, mais très inquiète par rapport à l'Ukraine, donc ce parti-là il a reculé, mais il a en face de lui une coalition qui est un peu plus puissante, qui est animée par l'ancien Premier ministre, M. Tuk, qui a été président de la Commission européenne, justement. Et donc, on a là des changements d'équilibre, mais on a la confirmation aussi que le conflit ukrainien, dont je n'ai pas parlé, mais je vais dire quand même quelques mots, a une incidence sur la vie politique de l'Union européenne, puisque la Pologne s'est rendue compte que... c'est à la mi-temps, j'allais dire. La Pologne s'est rendue compte que l'équipe au pouvoir à Kiev était une équipe de fascistes nazis. Et donc, ils ont quand même un peu de mémoire, et ils se sont rendus compte que les ancêtres, les grands parents de la clique à Zelensky étaient des tueurs de juifs et des tueurs de polonais en grosse quantité. Et donc, ça rend l'alliance un petit peu délicate quand même. Hein, et ça donne des idées, alors qu'ils ne sont pas des idées très saines, à une partie de la classe dirigeante polonaise qui dit « Mais après tout, l'Ukraine, la partie ouest, ça a été longtemps un territoire polonais et ça pourrait bien le redevenir parce que finalement, l'Ukraine, ça ne tient pas trop debout. C'est un assemblage de bouts et de morceaux. » C'est la réalité géopolitique. Je ne dis pas ça pour faire de la peine à Zelensky, je m'en moque d'ailleurs. Mais la réalité géopolitique de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est un rassemblement de morceaux qui ont des histoires très très contradictoires les uns avec les autres. Alors, où on en est en Ukraine ? On n'en parle plus de l'Ukraine, on parle beaucoup moins, on ne parle plus que de la Palestine. Et pourtant, il y a des liens. Alors, quel lien ? Eh bien, il faut savoir que l'OTAN, donc les États-Unis en tête, ont décidé d'envoyer à Kiev tout le matériel militaire possible et imaginable, à volonté et sans arrêt continu, au point qu'à un moment donné, ça remonte à peu près 6 mois, l'OTAN et les États-Unis en tête ont demandé à Israël d'envoyer une partie de ses munitions en Ukraine.
Elle en a moins maintenant.
Voilà. Alors, il se trouve qu'effectivement, ils sont bien embarrassés, parce qu'effectivement, comme ils ont envoyé des munitions en Ukraine donc à Zelensky, qui en a fait ce qu'il a pu, mais pas grand-chose, mais elles ont été utilisées et consommées, les stocks de munitions de l'armée israélienne sont relativement bas.
Alors là, ils ont été remplacés par la 7e flotte.
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont envoyé les 2 porte-avions, le porte-hélicoptère et tout, ouais. Parce qu'effectivement, il y a un vrai problème. Alors, comme ce problème renvoie en plus à l'état des stocks de munitions aux États-Unis même, qui sont au plus bas, on sait que les stocks de munitions sont au plus bas aussi dans quasiment tous les pays d'Europe. Hein. On sait par exemple que l'armée française a moins de 7 jours de munitions devant elle. C'est-à-dire, hein, imaginez, je ne sais pas qui voudrait nous attaquer, ce serait une drôle d'idée, mais il n'y a presque plus rien. Les arsenaux sont vides. Hein. Et donc, il y a un vrai problème du côté des fournitures de matériel. Bon, ça, je voulais dire ça. Alors, sur le sol ukrainien, ce qui se passe, c'est que, et Poutine en a tiré la leçon, parce que tout le monde l'avait tiré, mais enfin, il a dit, maintenant, il faut le dire, la contre-offensive ukrainienne, commencée, paraît-il, depuis le mois de juin, est terminée. Elle n'a pas donné grand-chose, voire rien du tout. On n'en parle plus. Par contre, on n'en parle plus, mais lui ne perd pas son temps. C'est-à-dire que pendant qu'on n'en parle plus, les effectifs donc, de l'armée russe progressent sur le terrain et surtout sont dotés d'un matériel et de munitions en quantité considérable, qui fait qu'effectivement, les positions ukrainiennes tombent les unes après les autres. Alors, on n'a pas encore un grand mouvement de l'armée russe pour envahir le territoire plus vers l'ouest, disons, pour s'approprier la totalité des régions de Zaporoïe, Kherson, etc. Mais on a une espèce d'épuisement de l'armée ukrainienne et des capacités de frappe de l'armée russe qui sont à des niveaux extraordinairement élevés. On ajoute même, clin d'œil de l'histoire, que la Corée du Nord, gentiment, a complété avec ses stocks à elle pour aider à ce que l'affaire avance plus vite côté Ukraine. Bon, ça devait arriver. Et donc là, on a un déséquilibre militaire qui est de plus en plus patent, qui ne se voit pas encore sur la ligne de front, mais effectivement, l'écroulement petit à petit de toutes les défenses et surtout la perte. Alors, les pertes humaines sont considérables, ukrainiennes, et donc on a des échos selon lesquels il y a plus en plus d'Ukrainiens qui essayent de fuir pour ne pas être enrôlés dans une armée qui assure leur mort dans les jours qui suivent leur engagement. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, on a tous les trafics possibles, des gens qui se cachent, des gens qui fuient en Roumanie, en Moldavie et tout. Dernière chose, je dis un mot sur la Moldavie. Le gouvernement moldave actuel. Alors, vous savez que la Moldavie, donc, c'est tout de suite à la première à gauche en regardant l'Ukraine. Hein. La Moldavie, donc, qui est un pays qui est peuplé. C'est un tout petit pays. Il a le problème qu'il est peuplé par des gens qui sont des A-Roumains. Pas des Roumains, des A-Roumains, donc il y a des familiarités ou des accointances au niveau du langage avec le langage roumain, mais ils sont complètement différents, enfin ils n'ont pas de passé politique commun, et le gouvernement actuel de Kicillof en Moldavie a été pris en main, a été circonvenu, a été choyé par l'Union européenne, et on veut en faire un outil, donc un nouveau pays de l'Union européenne et un outil anti-russe. Bon. Ce qui se passe, c'est que la population moldave n'est pas du tout d'accord, et que donc il y a une crise qui est en préparation à cet endroit-là, qui ne va pas tourner, je pense, à l'avantage des Aroumains. Dernière chose sur laquelle
Bernard, oui, juste une question, où on en est de l'entrée dans l'Europe ou dans l'OTAN de l'Ukraine?
Je pense que non, c'est un bavardage, je veux dire, parce que de toute façon, il faut beaucoup de temps, et puis ils doivent se dire, alors ils ne le disent pas officiellement, on fait rentrer quoi et qui, c'est quoi faire rentrer l'Ukraine? Quel morceau d'Ukraine? Quel personnel politique? Un état de décomposition avancé, un état de corruption avancé, des fascistes à tous les postes, etc. Donc, c'est un effet de tribune pour dire on va les prendre dans l'Union européenne, mais on ne saura pas quoi en faire. Puis alors, il faut savoir que pour rentrer à l'Union européenne, ce qu'elle fait, et d'une certaine façon, c'est bien. C'est-à-dire, quand l'Union européenne décide d'accueillir un nouveau pays, il faut qu'elle le mette petit à petit à niveau d'équipement, d'autoroutes, d'hôpitaux, etc. Et là, ça coûte très très cher. C'est grand, l'Ukraine. L'Ukraine a perdu entre 15 et 18 millions d'habitants depuis l'indépendance. Mais il y avait 52 millions d'habitants en Ukraine. Mais ils étaient équipés, c'était un pays très très avancé. Maintenant, il faudrait tout reconstruire pratiquement à zéro. Et donc l'Union européenne sait que dans ses règles du jeu, il y a les pays qu'on accueille, on l'aide. Mais ça coûte très très cher, hein, parce qu'il y a un pays dévasté. Bon. C'est ça qu'il faut noter. Dernière chose que je voulais signaler, où j'en étais ? Oui, alors ça c'est l'Union européenne, je ne l'ai pas dit, mais c'est assez intéressant. Il y a eu des élections, je ne l'ai pas noté l'autre jour, il y a eu des élections en République slovaque. Bon, en République slovaque, il est arrivé, donc peut-être des élections, alors là aussi, il sera obligé de faire une alliance parlementaire, il n'a pas 50% des voix, mais un monsieur qui a déjà été Premier ministre et qui en fait a fait sa campagne sur la base, on ne veut pas la guerre avec la Russie, ça suffit, et puis on ne fournit plus d'armement. D'ailleurs, apparemment, ils ont vidé leur stock, ils n'ont plus rien. Hein. Et donc, on a aussi un nouvel échec de l'Union européenne et de von der Leyen avec un nouveau Premier ministre slovaque, enfin, il n'est pas encore, mais il est en train de monter sa coalition, qui dit qu'il faut arrêter, de faire la guerre à la Russie. Donc là aussi, c'est encore une ligne de craquement de l'Union européenne qui ne sait plus où elle va. Dernière chose, et ça on l'évoquera plus largement la semaine prochaine, tout ce qui se passe autour de l'Arménie, je dis quelques mots, est très intéressant à suivre. Parce qu'il faut bien savoir qu'à cet endroit où il y a l'Azerbaïdjan d'un côté, un petit bout d'Azerbaïdjan de l'autre qui n'a pas de lien avec la maison mère. Ouais. L'Arménie au milieu et l'Iran juste au sud. Il y a une pression extraordinairement forte de la Turquie et de l'Azerbaïdjan pour traverser l'Arménie avec une autoroute et des voies ferrées. Mais ça veut dire prendre un morceau du territoire arménien. Alors là, on n'est plus du tout dans la situation du Haut-Karabakh. Hein, on a deux pays qui sont frontaliers de l'Arménie, qui voudraient bien manger un morceau de l'Arménie pour y faire passer des infrastructures de transport et pour avoir un accès direct à toute l'Asie centrale, etc. Mais ça suppose d'exproprier des centaines ou des milliers d'hectares arméniens. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que le monsieur Pachinian, le Premier ministre, qui s'est embarqué dans l'aventure du Haut-Karabakh, il doit se rendre compte que maintenant, la pression des deux voisins est extrêmement forte pour lui manger son territoire. Heureusement, et si l'Arménie a de la mémoire, et j'espère que monsieur Pachinian a de la mémoire aussi, très longtemps, depuis l'indépendance, en gros, des pays de l'URSS, la seule frontière praticable pour l'Arménie, c'était la frontière iranienne. L'Arménie était étouffée par la Géorgie d'un côté, l'Azerbaïdjan de l'autre, la Turquie du troisième côté. Le seul ballon d'oxygène possible, la survie de l'Arménie, c'était l'Iran.
L'Iran, ouais.
Et l'Iran est tellement consciente de ça, et je pense que M. Pachinian n'est pas un imbécile, il va le comprendre aussi. L'Iran a invité ces derniers jours à la fois des représentants du gouvernement de Bakou et des représentants du gouvernement turc en leur disant « Il n'est pas question que vous mangiez une partie du territoire arménien. Hein. Nous avons une frontière. Cette frontière sera respectée. Et si vous voulez... » Alors, ils ont même ajouté, on y a prévu, si vous voulez passer des trains par l'Iran qui arriveraient ensuite en Azerbaïdjan, on peut les faire passer, on vous accueillera. Si vous voulez faire passer des trains turcs aussi, on les fera passer. Mais laissez l'Arménie tranquille. Alors là, ça a dû faire réfléchir nos Vatanguerres, en particulier le Vatanguerre Erdogan. On en reparlera parce qu'il y a toute une géographie des transports à cet endroit-là qui est en cause. Simplement, il faut bien voir que M. Pachinian, dans l'opération très douteuse du Haut-Karabakh, a fait une énorme erreur. C'est-à-dire qu'il a cru qu'en prenant un morceau du territoire au pays voisin, on s'installait chez soi. Enfin, il a joué à Netanyahou, en fait. Ça revient à ça, exactement la même politique. Je m'installe chez l'autre et je dis que je suis chez moi. Bon, ça a raté. L'autre, il a dit, vous êtes chez moi, partez. Bon, c'est terminé. La République autoproclamée du Haut-Karabakh a proclamé elle-même qu'elle était terminée. Il n'y a pas eu de bain de sang. Les 100 000 Arméniens n'ont pas été passés par les armes, et c'est tant mieux. Ils sont revenus en Arménie, où apparemment on ne les traite pas très très bien, d'ailleurs, ce qui mériterait quand même que... On est pitié d'eux, mais cet accident-là, j'allais dire, pour faire simple et pour faire spectaculaire, un génocide arménien, un, ça va, deux, non. Voilà, c'est tout. Je conclurai par ça d'une formule un peu expéditive. Il n'y a pas eu de...
Parce que l'Iran, elle passe dans ce corridor pour le transfert de son économie en Russie, tout ça.
Bien sûr, ils passent par là. Ouais, mais ils peuvent aussi passer parce qu'ils ont de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. Ils peuvent passer par l'Azerbaïdjan, puis remonter le long de la mer Caspienne. Et puis, il y a aussi l'usage de la mer Caspienne qui est intense entre l'Iran et la Russie. Voilà. Donc, il y a tout un jeu. Alors, vous verrez, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup d'articles sur ce sujet-là qui sont très définitifs, comme si tous les plans des uns et des autres, de l'Inde avec un corridor, de l'Iran avec un autre corridor et tout, il y a beaucoup de plans sur la comète, comme on dit. Il y a très, très peu de réalités concrètes. Pour l'instant, ce qui fonctionne dans les transport sur l'Eurasie, c'est les zones chinoises et ce qui a été mis au point, ce qui fonctionne par la Chine et par la Russie. Pour le reste, on est dans des hypothèses, des élucubrations. Alors, c'est des élucubrations à coût de dizaines ou de centaines de milliards de dollars. Il faut faire des réseaux ferroviaires, il faut faire des autoroutes. Soyons calmes, ne nous emballons pas, parce que ça, c'est de la géopolitique en chambre. J'évite, bien que nous soyons dans une espèce de chambre ici, de ne pas trop en faire. Voilà. Merci, Roselyne, et on se retrouve mardi prochain.
Allez.